nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Nous vous requérons de jurer de dire la vérité.
Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout.
Ans d'histoire. C'était à la fin de la guerre de Cent Ans quand l'Église avait deux papes et la France deux rois. Le roi d'Angleterre, Henri VI, et le roi sans pouvoir d'un pays occupé par les Anglais, Charles VII. Commençait alors une épopée qui, en deux ans, allait faire d'une jeune paysanne de Lorraine la figure la plus populaire de l'histoire de France. On en connaît les grands moments, Jeanne d'Arc rencontrant Charles VII à Chinon pour le faire sacrer à Reims, sa victoire sur les Anglais à Orléans, puis sa capture le 23 mai 1430, avant d'être livrée par le duc de Bourgogne au régent d'Angleterre, le duc de Bedford, et à celui qui allait la juger dans un des plus grands procès de l'histoire, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon.
Vous n'aurez plus longtemps à attendre, monsieur le régent. Notre tribunal, comme vous le voyez, est presque prêt.
Qu'avons-nous à faire de toute cette parodie de jugement? Je voulais la sorcière de Lorraine. Je l'ai.
Dans cette affaire, monseigneur, moins votre Altesse apparaîtra, plus l'Angleterre aura à y gagner.
Non. Il me faut exorciser le fantôme de cette créature.
Nous ferons à cette fille un procès à la fois.
Et qui ira l'arracher des mains du duc de Bourgogne?
Mais moi, ne suis-je pas évêque de Beauvais? Elle a été prise dans ma juridiction.
Soit. Mais écoutez bien ceci, évêque. Ou bien vos prêtres obtiennent de cette diablesse qu'elle renie tout, tout. Ou bien je la reprends. Et j'en userai selon les intérêts de la couronne.
Monsieur le régent, les intérêts de la couronne sont indissociables de ceux de l'Église. Les duchés d'Angleterre et ceux de France ne doivent connaître qu'un seul roi. De même que l'Église ne doit suivre qu'un seul pape. Au-delà des crimes d'une égarée, c'est l'égarement de ce temps que nous allons juger.
Évêque, je veux brûler cette fille. Un point, c'est tout.
Jean Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire chez Fayard une biographie de Pierre Cochon, un des personnages sans doute les plus impopulaires de l'histoire de France, un des moins connus aussi, car en dehors du rôle qu'il a joué dans le procès de Jeanne d'Arc, dont il a été le juge, eh bien on ne sait presque rien de lui, sinon que près de 6 siècles après ce procès, il reste, je vous cite, « le parangon de l'ignominie, l'évêque sanglant, le traître, le bourreau de Jeanne d'Arc, et même, dites-vous, l'équivalent un peu de ce que furent les collabos en 40 ».
Il y a toute une imagerie autour de Cochon, une imagerie que les circonstances, au fur et à mesure que les siècles passaient, se chargeaient d'enrichir. Il est certain que les épisodes de l'occupation de la dernière guerre mondiale n'ont pas amélioré l'image de Cochon. Je rappelle que Vichy s'est beaucoup, beaucoup servi de Jeanne d'Arc.
C'est vrai que le contexte dans lequel Cochon a vécu, a jugé Jeanne d'Arc, est un peu comparable aussi à cette époque. Parce que la France, vous le rappelez, est divisée en deux, l'Église également, et la France est divisée en deux. Il y a deux rois en France, deux personnages qui se prétendent rois de France. Il y a le roi d'Angleterre, Henri VI, qui est tout jeune, hein, tellement jeune d'ailleurs qu'il est représenté en France par un régent, le duc de Bedford. Et puis il y a Charles VII, qui a été déshérité par Isabeau de Bavière, au profit justement du roi d'Angleterre.
Un Charles VII que les Anglais caricaturent en disant le roi de Bourges, mais il est également le roi à Lyon, à Montpellier, à Poitiers, à Limoges, à Tours. Il a la plus grande partie du royaume de France. Mais évidemment, les Anglais le caricaturent. Et le fait que Charles VII soit un jeune homme assez indécis jusqu'à l'épisode de Jeanne d'Arc, encourage à penser que qu'il n'était pas à la hauteur de la situation. Il l'a été plus tard. Il a été le grand constructeur de la France moderne, avant Louis XI.
La France partagée entre deux rois, divisée aussi entre deux partis, les Armagnacs qui soutiennent Charles VII, et les Bourguignons qui, eux, sont du côté de l'Angleterre.
Tout ça vient d'un enchaînement, d'une série de rouages. Vous avez d'abord l'élection de deux papes, mais deux papes élus par les mêmes cardinaux. Deux papes élus ensemble et un schisme qui va durer non pas quelques mois ou quelques années comme les précédents, mais 30 ans. Ensuite, vous avez la rivalité des oncles et du frère du roi, tout simplement parce que le roi est devenu fou. Quand Charles VI devient fou, à ce moment-là, c'est, si je puis dire, l'assiette au beurre. Les ducs se battent pour avoir accès au pouvoir, c'est-à-dire avoir accès au trésor royal. Et le duc de Bourgogne finit par faire assassiner son neveu, le duc d'Orléans, en considérant que c'était un tyran, qu'il abusait du pouvoir, qu'il abusait des finances royales, etc. Bref, les maîtres, c'est-à-dire les universitaires, les théologiens, les juristes, etc., qui ont déjà été amenés à donner un avis sur l'élection du pape, se trouvent amenés à donner un avis sur la licéité, sur le caractère licite d'assassiner le frère du roi. Ces gens jusque-là, c'était des professeurs, c'était des gens qui enseignaient la théologie, le droit, la philosophie, et maintenant ils deviennent les arbitres de l'Occident. Quel est le vrai pape? Quel est le vrai roi? Fallait-il vraiment en assassiner un? Ne vous étonnez pas si ceux qui ont pensé qu'il fallait tout réformer se sont trouvés du côté du duc de Bourgogne quand celui-ci a dit qu'il faut tout réformer parce qu'il avait été mis à la porte du pouvoir, et si par conséquent quelqu'un comme Cochon, après avoir été un réformateur dans l'Église, se trouve du côté de la réforme dans la société civile, c'est-à-dire du duc de Bourgogne. Quand le duc de Bourgogne est assassiné et que son fils se retrouve seul, eh ben il se tourne vers le seul allié possible, l'Anglais, et à ce moment-là, voilà un cochon qui se trouve dans le camp d'Angleterre.
Alors que Jeanne d'Arc, elle ne reconnaît d'ailleurs que Charles VII, et puis va le faire sacrer à Rome. On va passer assez rapidement sur cette histoire qu'on a souvent racontée sur cette antenne. Donc elle fait sacrer Charles VII à Reims, après avoir battu les Anglais à Orléans, et avant d'être capturée donc par les Bourguignons, justement, et livrée aux Anglais, et à Pierre Cochon le 6 décembre 1430.
L'évêque Cochon vous a offert 10 000 livres. Prenez-les, elles sont à vous. Et que je n'entende plus jamais parler de cette histoire. Plus jamais.
La voilà. Évêque, l'Angleterre livre cette fille à l'Église, sauf à la reprendre. Si l'Église ne savait la convaincre qu'elle vient de l'enfer.
Elle est belle.
Et c'était donc le 6 décembre 1430, Jeanne d'Arc livrée aux Anglais, qui eux-mêmes la livrent à Pierre Cochon. Jeanne d'Arc totalement abandonnée, ça peut paraître surprenant, par le roi qu'elle a fait sacrer à Reims, par Charles VII, qui n'a rien fait pour la délivrer.
Charles VII ne fait rien, pouvait-il faire quelque chose? Un prisonnier de guerre, ça se rançonne quand c'est un prince, quand c'est un grand baron. Quand c'est un simple combattant, on ne le rançonne pas. Que pouvait-il faire? Offrir une rançon, les Anglais ne l'auraient pas accepté. Les Anglais l'ont payé, ils l'ont acheté. Ils ont acheté Jeanne. Je suis convaincu de deux choses. D'une part, Charles VII, à ce moment-là, est passablement ingrat. Et d'autre part, il ne pouvait pas faire grand-chose.
Mais vous dites justement, vous avez parlé de rançon et de prisonnier de guerre. Pour les Anglais, il n'est pas, et ça explique pourquoi elle sera jugée par des ecclésiastiques, ils ne veulent surtout pas la considérer comme une prisonnière de guerre, c'est-à-dire quelqu'un qu'on pourrait éventuellement racheter.
Un prisonnier de guerre, on ne l'exécute pas.
Oui.
Or, il y a un double enjeu dans cette affaire. L'enjeu des Anglais, c'est de supprimer la sorcière. Jeanne leur a jeté des sorts depuis qu'elle est apparue. En disant qu'elle vient de la part de Dieu, elle jette des sorts. En réalité, elle vient de la part du diable. C'est une sorcière. Et une sorcière, on ne l'élimine qu'en la brûlant. Ça, c'est le jeu anglais jusqu'au bout. Et c'est eux qui vont gagner, finalement. Et puis, il y a le point de vue des maîtres, c'est-à-dire de Cochon et ses semblables, parce qu'il n'est pas seul dans le tribunal. Se renouvelant plus ou moins, le tribunal aura quand même vu plusieurs dizaines de juges aux côtés de Cochon. Et pour les maîtres, l'enjeu n'est pas de la brûler. L'enjeu est qu'elles disent « J'ai menti. Je ne viens pas de la part de Dieu. » Parce que sinon, eux, ils se battent contre Dieu.
Mais donc, Cochon, vous le dites, croyez vraiment qu'elle était une hérétique ou une sorcière? En revanche, pour
non,
les Anglais...
la sorcière, les Anglais le croient.
Les Anglais
Cochon,
le croient.
Non.
Mais ils le croient. Est-ce que ce n'est pas aussi, pour eux, le moyen, en la faisant passer pour une sorcière, de discréditer le roi qu'elle a fait sacrer à
l'évidence.
Reims? Parce que si c'est une sorcière, le roi a été sacré par une sorcière, donc il n'est pas roi de France.
Enfin, Charles VII. La légitimité de Charles VII passe par la reconnaissance. Jeanne d'Arc n'est pas une sorcière. Mais ce que veulent les Anglais, c'est sa mort. Alors que Cochon, s'il veut surtout, c'est qu'elle ne meure pas, il va basculer dans les derniers jours du procès.
Pourquoi ?
Mais il veut qu'elle ne meure pas parce qu'il veut qu'elle dise « Je ne viens pas de la part de Dieu ». Sinon, imaginez, cet évêque, ces docteurs en théologie, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dans le parti de Bourgogne, 30 ans, 40 ans qu'ils se battent contre Dieu. Alors, il y a vraiment un appel, si je puis dire, au jugement de Dieu. Cochon dit « Je veux qu'elle se désavoue ».
Pourquoi est-ce que c'est Cochon qui a été chargé de la juger, chargé par les Anglais d'ailleurs?
Il est l'un des conseillers du roi. Il est l'un des conseillers du roi Henri VI.
Et surtout, on l'a entendu aussi peut-être parce qu'elle a été arrêtée
dans
son diocèse.
Alors, elle est arrêtée dans le diocèse de Beauvais, et par conséquent, il l'appelle Et bien, Antoine Joly, à ce moment-là, il est heureux de jouer un rôle et de se faire bien voir de son maître, le roi de France et d'Angleterre. Je rappelle qu'Henri VI est roi de France et d'Angleterre et non pas le contraire.
Et Cochon, évêque de Beauvais, pourquoi est-ce qu'on l'a jugé à Rouen dans ces conditions, Jean Favier?
Parce qu'il était aux ordres du gouvernement. C'est Medford qui le pousse, mais Cochon s'arrange pour se mettre en avant. C'est un arriviste, il ne faut pas se le cacher.
Alors c'est un arriviste qui ouvre justement ce procès de Jeanne d'Arc le 21 février 1431.
Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Nous vous requérons de jurer de dire la vérité.
Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout.
Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité.
Il ne faut plus m'en parler.
Nous vous requérons de jurer précisément et absolument.
Je dirai ce que je sais, mais encore pas tout. Je suis venue de par Dieu et n'ai que faire ici. Et je demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venue. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyée de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas.
Peut-il déplaire à Dieu qu'on dise la vérité ?
La voix m'a dit de dire certaines choses au roi et non à vous.
Croyez-vous être la grâce de Dieu ?
Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y tienne.
Emmenez-la.
D'histoire, Patrice Gélinet.
Et on a entendu, Jean Favier, un extrait du film Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, qui a repris les minutes du procès. Autrement dit, ce que l'on entend quand Jeanne parle, c'est ce qu'elle a dit à son procès.
L'historien a une très grande chance. Il est rare qu'on ait autant de possibilités d'entendre parler l'un des héros de l'histoire qu'on raconte.
Mais alors justement, là, on entend quand même une paysanne illettrée qui tient tête à ses juges, qui sont des théologiens renommés, et qui tient tête avec un aplomb extraordinaire.
Elle a un aplomb extraordinaire, elle a un très robuste bon sens et un sens de la répartie. Elle est illettrée, c'est vrai. Quand on lui demande de signer, elle fait d'abord un rond, on lui dit non, il faut faire une croix. Bon, elle fait une croix, elle n'en sait pas plus. Et c'est là-dessus qu'ils vont jouer, d'ailleurs. C'est que si elle a un grand sens de la répartie, elle n'a pas le vocabulaire de l'affaire dans laquelle elle est enlisée. Autrement dit, l'un des procédés totalement déloyal, le procédé, mais totalement régulier, si je puis dire, des juges, c'est de lui parler selon un vocabulaire et avec une thématique qu'elle ne comprend pas.
Mais elle répond quand même du tac au tac devant 18 prélats, hein, qui sont des théologiens, et elle refuse de prêter serment. Pour quelle raison, d'ailleurs,
non,
Pierre Cochon ?
Elle dit « j'ai pas de raison de prêter serment ».
La elle grande dit, sinon, revendication si, de si Jeanne, je me fais confesser par Cochon, c'est ça.
Elle voudrait être confessée par Cochon. Or, Cochon, logiquement, refuse de la confesser.
Puisqu'elle est sorcière.
Non, parce que s'il l'entend en confession, il est tenu par le secret de la confession.
Ah oui.
Il ne, jamais dans un procès d'inquisition, l'un des juges n'a entendu en confession l'accusé. Mmh. C'est pour la même raison qu'elle n'a pas droit à un avocat. Parce que dans un procès d'inquisition, l'avocat, pour défendre le prévenu, est obligé d'exposer les motifs de ce prévenu, c'est-à-dire de prêcher lui-même l'hérésie. L'avocat risquerait donc de se retrouver à son tour au bûcher. Il y a une certaine logique dans tout cela, même si la logique conduit à la perdition de cette pauvre fille.
Alors elle n'a pas d'avocat dans un procès qui a quand même duré 5 mois, et elle déjoue pourtant tous les pièges dans lesquels on veut la faire tomber par ce que vous appelez, Jean Favier, des questions vaines, du moins en apparence.
En quel vêtement vous êtes apparu Saint-Michel ?
De ses vêtements, je ne sais rien.
Était-il nu ?
Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir ?
Avait-il des cheveux ?
Pourquoi les lui aurait-on coupés ?
Qu'avez-vous fait de votre mandragore ?
Je n'ai pas de mandragore, je n'en ai jamais eu.
Près de votre village, n'y en avait-il pas une ?
Oui.
À quoi sert la mandragore ?
À faire venir l'argent. On le dit, mais je n'en crois rien.
Pourquoi mettiez-vous votre anneau et le regardiez-vous en allant à l'attaque ?
Mes pères et mères me l'avaient donné, c'était pour la faire honneur.
Les bonnes femmes de la ville touchaient-elles leurs anneaux à l'anneau que vous portiez ?
Beaucoup de femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais pas leur cœur et intention.
Receviez-vous les sacrements passant dans les villes ?
Oui.
Les receviez-vous en habit d'homme ?
En habit d'homme, sans armes.
À Reims, pourquoi votre étendard fut-il plus porté pendant le sacre que ceux des autres capitaines ?
Il avait été à la peine, on avait bien raison de le mettre à l'honneur.
Left to the witch, let us...
Mort à la sorcière, entend-on dans le tribunal, justement, pendant lequel, pendant 5 mois, elle a répondu à des questions, des quantités de questions qui sont toutes autant de pièges, en fait.
Et qui sont d'une grande futilité. Je suis convaincu que le propos de Cochon, c'est de la casser, c'est de la briser. Et par conséquent, ce qu'il veut, c'est qu'elle se désavoue. Qu'en fin de compte, elle dit ben, « j'ai menti, j'ai tout inventé, je ne viens pas de la part de Dieu ». Mais quand on voit à quel point elle tient tête, à quel point elle a de la force d'âme, il essaie de la briser avec des questions stupides pour perdre du temps. Et Jeanne, à plusieurs reprises, dit « mais qu'est-ce que ça a à voir dans l'affaire ?» La réponse est juste. Qu'est-ce que ça a à faire quand on lui demande si la couronne destinée au roi de France sentait bon ou sentait pas bon? On est concerné quand on les prend au pied de la lettre, ces questions. Mais quand on comprend qu'il s'agit en réalité de la harceler, on voit le procédé, qui n'est pas tout à fait élégant.
Ces questions, Colette Beaune l'écrit dans une biographie de Jeanne d'Arc, quand même, elles correspondaient souvent à... Elles étaient assez pointues. Par exemple, quand on lui dit, quand on lui demande quels étaient les vêtements des apparitions qu'elle avait eues, parce que les apparitions, vous le dites, Jean Favier, on ne parle que de ça, les fameuses apparitions qui l'ont poussée à aller vers Charles VII pour le faire sacrer, etc., pour sauver la France et bouter les Anglais hors de France. Et alors, si elle répond, oui, ils avaient des vêtements de telle manière, ou si ils avaient des cheveux, pour l'Église, une apparition ne peut être qu'immatérielle.
Absolument.
Donc ça veut dire qu'elle se trompe, ça veut dire qu'elle ment.
Il faut qu'elle ait menti. Ça, c'est le point de vue Cochon, c'est le point de vue des clercs, c'est le point de vue des juges. Ce n'est pas le point de vue de Bedford, que vous citiez tout à l'heure, ou de Warwick, qui, eux, veulent la tuer.
Bedford, je le rappelle, donc c'est le régent, c'est celui qui représente le roi d'Angleterre en France. Et Warwick, c'est celui qui commande.
C'est le gouverneur local.
C'est le gouverneur local.
Quand Jeanne est très malade pour avoir mangé un poisson visiblement avarié, Cochon l'a fait soigner. Il ne veut pas qu'elle meure comme ça d'une mort naturelle. Il faut qu'elle ait d'abord dit qu'elle avait menti. Tandis que les Anglais, eux, veulent qu'elle disparaisse le plus vite possible pour que, de nouveau, il puisse être des vainqueurs sur les champs de bataille.
Il y a quelque chose qui revient en permanence, un reproche qu'on lui fait, parce que parmi les questions oiseuses, c'est la mandragore. Bon, on sait que la mandragore, c'est le propre des sorcières. Les anneaux, on lui reproche de se faire passer, d'avoir enchanté, enfin, que ces anneaux soient une espèce de talisman. Mais alors, il y a quelque chose qui revient en permanence, qui n'a rien de particulièrement religieux, mais qui est sans doute très condamnable à l'époque, Jean Favier, c'est le reproche qu'on lui fait de porter des habits d'hommes et une coiffure courte.
Alors elle a porté une coiffure courte et des habits d'hommes en disant c'est plus commode pour être à cheval et ajoute-t-elle au milieu des hommes. Autrement dit, pour préserver sa vertu, c'est plus facile d'avoir à autre chose que d'avoir une jupe. Mais dans l'esprit des juges, c'est une marque d'indiscipline. La discipline normale, un homme est habillé en homme, une femme est habillée en femme. Et par conséquent, cette affaire des habits d'hommes est exacerbée par le tribunal. Parce que c'est la preuve qu'elle refuse de se soumettre à la discipline de l'Église. Alors évidemment, quand elle finit par craquer, elle finit par avouer qu'elle a menti, ça c'est l'abjuration au cimetière Saint-Ouen, à ce moment-là, elle enlève les habits d'hommes.
Mais justement, parce qu'il y a des gens... À un moment donné, Cochon est tellement ennuyé parce qu'il n'y a aucune prise sur elle, manifestement.
Oui, et puis il doit se faire dire des choses très désagréables par les Anglais qui sont ses patrons.
Et alors il arrête, le procès cesse d'être public. On pense même à ce moment-là, mais je crois que Cochon, vous le dites, Jean Favier la défend, il y a même des gens qui disent, après tout, c'est un procès en inquisition, puisque c'est le procès d'une sorcière, on peut la torturer.
Cochon a fait procéder à un vote là-dessus. Et nous avons les noms de ceux qui ont voté pour la torture. Cochon a voté contre, estimant que ça n'ajouterait rien à l'affaire. Autrement dit, on en sait suffisamment comme ça. Sous la torture, elle ne dira rien de plus que ce qu'elle a déjà dit. Cochon est tout à fait lucide à cet égard. Mais quand Jeanne d'Arc se réalise qu'elle a, j'allais dire, vendu son âme pour sauver sa vie...
Mais on y reviendra à cette abjuration. Ah bon. Mais Cochon donc refuse la torture. Il y a aussi autre chose. Il y a des gens, malgré tout, qui, bien plus que Cochon, essayent au fond de lui épargner la vie. Son sort est réglé. Si jamais on la convainc d'être une sorcière, elle sera brûlée vive. Et il y a des gens qui s'approchent pour lui dire, justement, qui lui disent, mais abjurez, vous serez sauvé. Alors, vous l'avez dit...
On sait très bien que si elle abjure, elle ne serait quand même pas libérée.
Oui, mais
elle finira ses jours en prison.
Comment expliquer qu'effectivement, elle finisse par abjurée en public, vous l'avez dit, le 24 mai 1431, est-ce qu'on peut dire qu'elle a justement craqué, comme
oui,
le cherchait Cochon?
Elle a craqué à ce moment-là, et très vite, elle se ressaisit, elle se rend compte qu'elle a, j'allais dire, capitulé, et elle reprend les habits d'homme pour une raison très simple, c'est qu'on ne lui a pas laissé les habits de femme. Autrement dit, on ne lui envoie pas, vraisemblablement par une fenêtre, enfin on n'en est pas sûr parce que la mise en scène est assez douteuse, mais on lui rend les habits d'homme après avoir pendant la nuit subtilisé les habits de femme. Elle remet ses habits d'homme, à ce moment-là elle est retombée dans son péché, elle est retombée dans la discipline, elle est ce qu'on appelle relapse, et la relapse c'est le bûcher.
Vous dites aussi, Jean-Favier, que si elle les met, ses habits d'homme, c'est qu'elle pouvait craindre d'être violée. Quelqu'un indique qu'un Milord en anglais aurait tenté de la forcer.
Ça n'est pas du tout impossible. Les soldats de Charles VII, qui ont combattu à côté d'elle, disent qu'elle était hors et qu'elle n'a jamais joué à la femme envers eux.
Mais là, c'est pas Charles VII. Là, c'est le roi Charles d'Angleterre. VII.
Et on peut tout à fait comprendre qu'elle avait peur. Elle était au milieu. D'abord, on lui a refusé la prison d'église, où elle aurait été, si je puis dire, sous la responsabilité de Claire. Elle est dans la prison anglaise, et non pas dans la prison de l'archevêque où elle aurait dû se trouver. Qu'elle ait peur qu'on la viole, c'est tout à fait compréhensible. Le risque était réel, Jeanne ne l'invente pas. Mais ce qui est vrai, c'est que les Anglais jouent de tout, et que Cochon n'est pas mécontent de jouer de tout pour qu'elle avoue.
Parce que les Anglais sont furieux quand elle a abjuré. Au fond, ça veut dire qu'elle va être condamnée à la prison à vie. Et ils sont furieux.
Parce que dans sa prison, elle peut continuer de leur jeter des sorts. Ouais. C'est ça la hantise de Warwick. C'est, si elle continue de nous jeter des sorts, qu'est-ce qui va arriver? Ils se rendent bien compte qu'ils sont en train, non pas de perdre la guerre de 100 ans, faudrait pas anticiper, mais quand même qu'ils ont subi une belle série d'échecs. Ils se rendent bien compte que l'armée de Charles VII est en train de leur damer le pion. Par conséquent, les Anglais se disent, surtout, qu'elle n'aille pas en prison pour continuer de nous envoyer des sorts, parce que les sorts, ça passe par-dessus les murs des prisons.
Alors, heureusement pour eux, si on peut dire, et malheureusement pour Jeanne d'Arc, finalement, ayant remis des habits d'homme, on considère, vous l'avez dit Jean-Favier, qu'elle est retombée dans ses erreurs, elle devient relapse et donc condamnée à être brûlée vive par Pierre Cochon qui la livre à la puissance séculière, c'est-à-dire aux Anglais, le 30 mai 1431.
Nous, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri, pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière. Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision en deçà de la mort et de la mutilation des membres.
Évêque, c'est par vous que je meurs. Tout est juste ainsi. Mes voix n'ont pas menti, je serai délivré à grande victoire.
Et c'était donc la mort de Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Évêque, c'est par vous que je meurs, a-t-elle dit au moment justement où elle était condamnée et avant de passer sur le bûcher. Est-ce que c'est l'évêque qui est
responsable? Il était quand même le premier juge. Les autres, il y a un deuxième juge, c'est l'inquisiteur. Les autres sont des assistants. Ils sont membres du tribunal, ils ne sont pas les juges. Donc il est quand même le responsable numéro un. C'est lui qui la condamne. Alors cela dit,
Il y a les Anglais derrière. Non,
ce qui est vrai, c'est qu'elle, Jeanne d'Arc, simplifie les choses quand même. Mm-hmm. Bon, elle n'a pas une vision politique des choses. C'est quand même clair. Alors cela dit, il faut quand même n'être pas trop dupe des réactions aussitôt après la mort de Jeanne d'Arc. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde commence à expliquer qu'il a pleuré en la voyant.
Nous avons brûlé une sainte.
Oui, nous l'avons brûlé une sainte. Ça, c'est très bien de dire ça avant, mais ils l'ont pas dit avant. Hein. Ouais. Ils l'ont pas dit après. Ils l'ont pas dit avant, ils le disent après. Je me méfie un tout petit peu de cette émotivité qui est certainement réelle, mais cette émotivité qui suit la mort, voire brûler une jeune fille, ça fait pleurer même ceux qui ont avant disaient mais il faut la tuer. Je crois qu'il faut ne pas être dupe. Et puis alors, ne pas oublier une chose, c'est que si à Rouen, c'est un événement, mais attention, une exécution capitale dans une ville comme Rouen, il y en a toutes les semaines. Bon, les gens, ils sont allés voir ça, ils ont pleuré un instant, puis ils ont oublié.
Alors cela dit, pour les Anglais, cette disparition de celle qu'ils appelaient la sorcière n'a pas arrangé les choses du tout. La sorcière, c'est ce que disent aujourd'hui tous les historiens, au fond elle a redonné un peu du courage à Charles VII, elle lui a permis de redresser la situation, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé par la suite, puisque d'abord Charles VII parvient à se réconcilier avec les Bourguignons qui abandonnent les Anglais, il y a la fameuse paix d'Arras.
Si vous permettez, la réconciliation c'est 1435, mais quand en 1429, Charles VII va se faire sacrer À Reims, le duc de Bourgogne pourrait arrêter le cortège, il ne fait rien.
Oui.
Il laisse
donc
passer.
Donc il y avait déjà,
et, oh oui,
il y avait
en a
déjà
assez,
un arrangement.
Et puis, il
n'a
plus rien à gagner à être dans les gouvernements à Paris. Oui. Il n'est plus rien, alors qu'il est en train de construire l'État bourguignon. Ses ambitions sont ailleurs.
Plus de guerre civile, donc les Anglais puis, reculent, se retrouvent tout seuls, ils perdent Paris.
Philippe le Bon est un immense homme d'État.
Oui. Donc, le duc de Bourgogne.
Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Alors, et les Anglais perdent Paris, ils voient toute la Normandie leur filer entre les doigts, si je puis dire, ville par ville. Et par conséquent, eh bien, ça sera la fin. Et Cochon finira ses jours évêque de Lisieux.
En 1442.
En laissant une assez bonne réputation d'homme pieux, équitable, etc. Et oui.
Et
tout le monde a oublié le procès de Jeanne. Pas à la cour de Charles VII, puisque finalement...
Elle sera réhabilitée.
Il y aura
et ce procès va être annulé en 1456, Jean-Favier.
Le procès a duré de 50 à 56 avec des redites. Et là, on voit... la misère du monde. C'est-à-dire les juges, même ceux qui ont voté la torture, qui disent « Ah, moi, je ne me souviens plus, je ne sais plus très bien de quoi il s'agissait. » Une amnésie, mais dramatique. Ces gens-là sont des lâches. Ils avaient été des lâches en étant aux ordres. Ils sont des lâches en ne se souvenant plus de rien.
Le procès, en revanche, de Cochon, eh bien, il a continué, il continue jusqu'à aujourd'hui. Or, dans votre biographie, justement, de Pierre Cochon, « Comment on devient le juge de Jeanne d'Arc », que vous venez d'écrire Jean-Favier chez Fayard, vous semblez indulgent vis-à-vis de Cochon. Vous dites au fond, le contexte peut faire comprendre pour quelles raisons il a eu ce comportement. Et vous semblez dire au fond qu'il n'était pas un traître à la solde des Anglais, mais après tout un prêtre qui ne cherchait qu'une chose, c'est à réconcilier d'une part l'Église partagée entre deux papes, et puis aussi les Français qui étaient fatigués de cette guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, et de cette présence anglaise. Au fond, ils étaient même prêts à accepter, dites-vous, un roi anglais.
Non, je ne suis pas indulgent. J'ai écrit que quand tout est anormal, rien n'est plus normal. Il est dans un monde qui a perdu tous ses repères. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Être indulgent, non. Réhabiliter Cochon, certainement pas. Pas plus que condamner. Un historien n'est pas un juge. Mais en revanche, ce que j'ai voulu, c'est montrer comment, d'un demi-siècle de perturbation du monde, de perturbation de la chrétienté, de perturbation du royaume, eh bien, il y a des gens qui ont perdu également le sens de la droiture et le sens de l'honnêteté, mais pur et simple. Comment on fabrique ce que, en français moderne, on appellerait un salaud, c'est ce que j'ai voulu montrer. Comment on le devient en étant parti d'un idéaliste qui voulait la réforme de l'Église et la réforme du royaume. Simplement, les engagements successifs, ce sont des engrenages, et les engrenages, ça tourne parfois dans le sens inverse.
Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles on peut comparer cette période lointaine, il y a 600 ans justement, à une période plus récente pendant laquelle les Français ont été divisés?
On a connu des gens qui étaient bien partis et qui ont fini très mal.
Là, vous pensez évidemment à la collaboration.
Je pense à la collaboration et je pense au fait que dans la collaboration et parmi les pires noms de la collaboration, il y a des gens qui avaient un assez beau passé. Je pense au chef de la milice qui avait fait la guerre de 14 dans les corps francs.
Oui, mais enfin, disons qu'ensuite, lui était un véritable salaud.
Absolument.
Beaucoup plus,
mais
beaucoup
justement,
plus que
il faut
Cochon.
Voir comment on peut devenir un salaud. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse. Mais il m'intéressait de voir par quel cheminement intellectuel... Par quel cheminement également d'un arriviste, je l'ai dit tout à l'heure et je le maintiens, Cochon, à la fin, il est conseiller du roi de France et d'Angleterre, il n'a pas envie de perdre sa place.
Au fond, au lieu d'être sous-titré « Pierre Cochon, comment on devient le juge de Jeanne d'Arc », vous auriez pu le sous-titrer « Pierre Cochon, comment on devient un salaud ». Cochon, c'est A-U-S-C-H-O-N,
hein, je rappelle.
Ça aurait été
mais ça ne se fait pas dans l'édition.
Oui. Je rappelle que Cochon, vous dites d'ailleurs qu'il en a souffert, s'appelait Cochon, C-A-U-C-H-O-N et pas C-O-C-H-O-N.
Ah, il en a souffert aux yeux de la postérité. Mais à son époque, on disait un porc, personne ne disait un cochon pour l'animal.
Pierre Cochon, ou comment on devient le juge de Jeanne d'Arc, c'est donc votre livre dont je recommande la lecture, Jean-Favier, qui vient d'être publié chez Fayard. À lire aussi chez Belin le livre « Le temps de la guerre de 100 ans » de Boris Bov, qui fait partie d'une très belle série en 13 volumes de l'Histoire de France, publiée sous la direction de Joël Cornette. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Le procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson, disponible en DVD chez MK2, et « Jeanne d'Arc ou le pouvoir de l'innocence » de Pierre Badel. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroix, documentation Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivar, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un échec oublié de la France libre, il y a 70 ans, l'expédition de Dakar.